Mark Twain, les Peterkins. C'était bien le moment de se livrer à l'étude des langues. Les Peterkins venaient d'entrer dans leur nouvelle maison, beaucoup plus confortable que la précédente. Ils devaient avoir là place pour toute chose et toute chose à sa place. Elisabeth et Lisa, n'oubliez pas combien leur ancienne installation était peu pratique. Pendant longtemps, en effet, pour jouer du piano, elle avait été obligée de s'asseoir dans la galerie de l'autre côté de la fenêtre. Madame Peterkins se souvenait des difficultés qu'elle éprouvait au sujet des nappes de table. La nappe supérieure se trouvait dans une malle rangée contre la porte d'une grande armoire située sous l'escalier. La nappe du dessous était renfermée dans un tiroir de la grande armoire, de sorte que, lorsqu'il s'agissait de changer les nappes, il fallait retirer et mettre de côté la malle pour pouvoir ouvrir l'armoire, car on devait d'abord servir de la nappe du dessous. Après cela, il fallait remettre en place la malle pour l'ouvrir et en extraire la nappe supérieure. Après tous ces déplacements, il était encore nécessaire de déplacer la malle pour dégager la porte de l'armoire qui contenait la boîte à couteaux. Ces déménagements successifs occasionnaient naturellement une grande perte de temps. Maintenant que la nouvelle maison des Peterkins était suffisamment grande, ils trouveraient le moyen de tout loger. Agamemnon se réjouissait surtout de l'installation de la nouvelle bibliothèque. Dans leur ancienne maison, il n'y avait pas de place, pièce spéciale pour les livres. Les dictionnaires étaient au premier étage, chose fort incommode, et les volumes de l'encyclopédie répartis en plusieurs endroits. Ainsi, les volumes de A jusqu'à P se trouvaient au rez-de-chaussée, tandis que tous ceux de Q jusqu'à Z étaient entassés dans différentes chambres du premier étage. Malheureusement, on ne pouvait jamais se rappeler si la section de A à P comprenait la lettre P. Je montais toujours au premier étage pour chercher P, disait Agamemnon. Je m'apercevais que le volume se trouvait en bas, et à chaque instant, c'était une nouvelle confusion. Naturellement, maintenant, la nouvelle maison des Peterkins se prêtait mieux à la vie studieuse. Ayant tous les livres dans la même pièce, on évitait une grande perte de temps pour les chercher. Monsieur Peterkins suggéra à chacun des siens d'apprendre une langue différente. S'ils voyageaient un jour à l'étranger, ce serait on ne peut plus commode. Elisabeth et Lisa pourraient parler français avec les Parisiens, Agamemnon allemand avec les Allemands, Salomon John italien avec les Italiens. Madame Peterskin parlerait espagnol en Espagne. Quant à lui, il aborderait à la fois toutes les langues orientales, en commençant par le russe. Madame Peterskins n'était pas très décidée à apprendre l'espagnol, car toute sa famille avait juré qu'elle n'irait jamais en Espagne à cause de son horreur pour l'Inquisition. Madame Peterkins, d'ailleurs, partageait cette horreur avec ses enfants. Les voyages à l'étranger lui souriaient peu. Elle avait toujours déclaré qu'elle ne quitterait pas le sol natal avant qu'un pont fût jeté sur l'Atlantique. Or, il n'en était pas encore question. Agamemnon déclarait qu'il ne fallait jurer de rien, que chaque jour on faisait de nouvelles découvertes, et qu'un pont ne serait assurément pas plus difficile à inventer qu'un téléphone. Dans les temps anciens, on se servait déjà de ponts. La question des professeurs vint alors sur le tapis. On pourrait certainement en trouver à Boston. S'ils venaient tous le même jour, il serait facile de transporter trois d'entre eux dans le petit break. Agamemnon irait tout devant eux, puis les reconduirait, et de cette façon, ils s'habitueraient à leur conversation, à l'aller comme au retour. Monsieur Peterkins se documenta sur les langues orientales. On lui apprit que le sanskrit était la base de toutes ces langues. Aussi proposa-t-il à toute sa famille de commencer par le sanskrit. Ils auraient ainsi besoin au début que d'un seul professeur et pourraient ensuite bifurquer sur les autres langues. Mais sa famille préféra apprendre des langues différentes. Elisabeth et Lisa savaient déjà un peu de français. Elle avait essayé, sans grand succès, de placer quelques mots à l'exposition du centenaire. Mais elle s'était aperçue qu'elle venait de lier conversation avec un mot qui ne comprenait pas le français. M. Peterkins objecta qu'il leur faudrait plusieurs pièces pour leurs études, si tous les professeurs venaient à la même heure. Mais Agamemnon lui fit remarquer qu'il se servirait de dictionnaires différents. M. Peterkins était d'avis qu'il vaudrait mieux avoir tous les professeurs en même temps, car chaque élève pourrait, en plus de la langue qu'il étudierait, attraper des bribes des autres langues. D'après lui, le meilleur moyen d'apprendre à parler une langue étrangère était d'entendre parler les autres autour de soi. Madame Peterkins objecta que sa maison ressemblerait à une tour de Babel. Elle en prit cependant son parti. Agamemnon signala une autre difficulté. Naturellement, il leur fallait des professeurs étrangers qui parleraient chacun leur langue maternelle. Mais dans ce cas, comment faire pour les inviter à venir à la maison, leur expliquer la combinaison de la voiture et arranger la répartition des heures de leçon? Agamemnon se demandait comment on pourrait se tirer d'affaire avec un étranger lorsqu'on était incapable de lui exposer ce qu'on désirait. Elisabeth et Lisa répondit qu'en pareil cas, les signes et la pantomime devaient rendre de grands services. Salomon John et les jeunes garçons se mirent aussitôt à mimer. Elisabeth et Lisa expliqua que le mot « langue » signifiait à la fois « langage » et « organe de la parole ». Ils pouvaient donc montrer leur langue pour se faire comprendre. Comme exercice pratique, les jeunes garçons figurèrent les professeurs étrangers parlant chacun leur langue maternelle. Agamemnon et Salomon John firent semblant de les inviter à venir instruire la famille au moyen d'une série de signes. M. Peterkins déclara que le succès était admirable et qu'il pourrait presque aller à l'étranger sans étudier les langues. Il encouragea ses enfants à se faire comprendre par signes. Pourtant, comme le pont n'était pas encore construit, il vaudrait peut-être mieux attendre et cultiver les langues. Madame Peterkins craignait que les professeurs étrangers ne se considérassent comme invités au lunch. Salomon John, en effet, n'avait cessé de montrer sa bouche en l'ouvrant, en la fermant et en sortant sa langue. Il semblait plus, par là, vouloir les inviter à manger que leur demander des leçons de langue. Agamemnon suggéra qu'ils pourraient emporter avec eux les divers dictionnaires lorsqu'ils iraient trouver les professeurs. Cela exprimerait qu'ils désiraient des leçons, et les professeurs n'y verraient pas une invitation au lunch. Madame Peterkins trouvait plus prudent de préparer un lunch pour les professeurs au cas où ils prendraient la visite pour une invitation. Seulement, elle ignorait ce qu'ils mangeaient d'habitude. M. Peterkins pensa qu'il serait très bon d'apprendre ce détail en fréquentant des étrangers, car avant de quitter leur pays natal, ils auraient ainsi l'occasion de s'habituer aux plats étrangers. Les petits garçons se réjouissaient beaucoup à l'idée de manger de nouveaux mets. Agamemnon avait entendu dire que la soupe à la bière était le régal favori des Allemands, et il se proposait, dès sa première leçon, de s'en faire expliquer la préparation. Salomon John savait que tous les étrangers aiment beaucoup l'ail. Aussi pensa-t-il que les professeurs seraient enchantés de sentir une odeur d'ail dans la maison de leur première leçon, et qu'ils apprécieraient beaucoup cette délicate attention. Elisabeth et Lisa voulaient faire à une de ses parentes, habitant Philadelphie, la surprise de lui parler français. Aussi désirait-elle commencer ses leçons avant la visite annuelle de sa famille de Philadelphie. Il eut un léger retard dans l'exécution de ses projets. Monsieur Peterkins préférait trouver des professeurs établis depuis peu dans la région, car il ne voulait pas subir la tentation de parler anglais avec eux. Il désirait des professeurs récemment débarqués en Amérique. Et il revint un soir, chez lui, avec une liste complète des étrangers nouvellement arrivés. La famille Peterkin décida qu'elle emprunterait sur Brownwick's leur break pour le premier jour, et Madame Peterkin et Agamemnon partirent en voiture à la ville pour ramener tous les professeurs. L'un était un Russe qui voyageait pour son plaisir et n'avait nullement l'intention de donner des leçons. Peut-être y consentirait-il, mais dans tous les cas, il ne savait pas un mot d'anglais. M. Peterkin avait dans son porte-cartes les cartes des messieurs que lui avaient recommandés les différents professeurs. Accompagné d'Agamemnon, il alla d'hôtel en hôtel pour les en convoquer. Il les trouva tous très polis, tous prêts à venir après les explications données au moyen de signaux convenus. Ils avaient oublié les dictionnaires, mais Agamemnon possédait un guide qui pouvait les remplacer et qui sembla très approprié aux étrangers. M. Peterkins dut se contenter d'un professeur russe, car il ne trouva aucun maître de sanskrit nouvellement débarqué dans le pays. Mais voici qu'une difficulté inattendue surgit lorsqu'ils mirent dans la même voiture le professeur russe et le professeur d'arabe. Ce dernier était turc et portait un fez sur la tête. Il s'assit au fond de la voiture. Ils se regardèrent de travers et s'invectivèrent chacun dans leur langue sans que M. Peterkins pût comprendre un traître mot. Était-ce du russe? Était-ce de l'arabe? En tout cas, il sautait aux yeux, ou plutôt aux oreilles, que les individus ne voulaient à aucun prix se trouver dans la même voiture. M. Peterkins était au désespoir. Il avait oublié la guerre turco-russe. Quel gaffe énorme il venait de commettre en invitant le Turc. Une foule de curieux s'était groupée devant l'hôtel. Le professeur français pria très poliment le Russe de monter avec lui dans la première voiture. Mais une autre difficulté se présentait. Le professeur allemand se carrait tranquillement dans le fond de cette voiture. Et le professeur français avait à peine mis le pied sur le marchepied qu'il invectiva violemment le professeur allemand. Et ce dernier, furieux, sortit de la voiture et sauta par la porte opposée, fit le tour en courant et le saisit au collet. À n'en pas douter, l'allemand et le français ne pouvaient pas habiter ensemble. La même voiture. Pendant ce temps, la foule des curieux augmentait toujours. Agamemnon, fort heureusement, savait dire en allemand le mot « monsieur ». S'adressant au professeur allemand, il invita par signe à prendre place dans l'autre voiture. L'allemand consentit à s'asseoir aux côtés du Turc. Enfin, les voitures se mirent en marche. M. Peterkins avait l'italien à ses côtés, le professeur français et le russe étaient assis derrière et se parlaient sur un ton aigre qui laissait supposer à M. Peterkins qu'il n'était pas complètement d'accord. Le voyage d'Agamemnon s'effectua dans un profond silence. L'Espagnol, assis à côté de lui, semblait d'humeur maussade, tandis que le Turc et l'Allemand n'échangèrent pas un traître mot. En arrivant à la maison, ils furent reçus par Mme Peterkins, Elisabeth et Lisa. Par une délicate attention pour le professeur espagnol, Mme Peterkins avait jeté sur ses épaules une mantille de dentelle. M. Peterkins introduisit les professeurs dans la bibliothèque, mais il eut soin de les installer chacun à une respectable distance l'un de l'autre. Solomon John chercha le dictionnaire italien et s'assit à côté du professeur italien. Agamemnon, avec un dictionnaire allemand, se rapprocha du professeur allemand. Les jeunes garçons montrèrent aux Turcs leur livre de contes arabes. M. Peterkins essaya d'expliquer au professeur russe qu'il ne possédait pas de dictionnaire russe et qu'il avait espéré apprendre le sanskrit avec lui. De son côté, Mme Petersky essaya de faire entendre à son professeur qu'elle n'avait pas de livre d'espagnol. Elle oublia momentanément sa terreur de l'Inquisition et essaya de lui glisser quelques mots en se servant de termes anglais prononcés très lentement et en altérant son accent le mieux qu'elle pouvait. L'espagnol s'inclina, parut prendre grand intérêt à sa conversation et se montra très poli. Pendant ce temps, Elisabeth et Lisa sortaient aux Parisiens les quelques phrases qu'elles connaissaient. Elles parlaient plus facilement français qu'elles ne comprenaient son professeur. Lui saisissait parfaitement ce qu'elle disait. Elle récita son vocabulaire et annonça l'exercice suivant. « J'ai le livre. As-tu le pain ? L'enfant a une poire. L'enfant sait-il sa leçon ?» Le professeur écouta avec grande attention, répondit très distinctement à chaque question. Soudain, après avoir récité une de ses phrases, elle se leva, courut vers sa mère et lui chuchota à l'oreille. « Ils ont, je crois, commis l'erreur que vous redoutez. Ils se croient invités aux loges. Ils viennent me remercier de notre aimable invitation à déjeuner. « Oh, ils n'ont pas pris leur déjeuner !» s'exclama Mme Peterkins en regardant l'espagnol. « Ils semblent affamés, mais qu'allons-nous faire ?» Elisabeth et Lisa courut consulter son père. Qu'allait-il faire ? Comment leur faire comprendre qu'ils étaient invités à donner une leçon et non lynche ? Elisabeth et Lisa prièrent Agamemnon de chercher le mot « apprendre » dans le dictionnaire. Apprendre devant signifier enseigner. Hélas, ils s'aperçurent que ce mot voulait à la fois dire apprendre et enseigner. Mais qu'allait-il faire ? Les étrangers se tenaient maintenant assis, silencieux, dans leurs coins respectifs. L'espagnol paraissait de plus en plus blême. Allait-il donc s'évanouir ? Le français tortillait et effilait sa moustache en regardant l'allemand. Et que faire si le russe venait d'attaquer à attaquer le turc, et si l'air narquois du parisien finissait par exaspérer l'allemand ? « Oh, il faut leur donner quelque chose à manger !» dit M. Petersky, sa voix basse. « Cela les calmera !»« Si seulement je savais ce qu'ils ont l'habitude de manger !» continua Mme Peterkins. Salomon John suggéra qu'aucun des professeurs ne savait ce que son voisin avait l'habitude de manger. On pouvait donc leur offrir n'importe quoi. Madame Peterkins se montra plus hospitalière que son fils et déclara qu'Amanda pourrait préparer du bon café. M. Peterkins proposa un plat américain. Et Solomon John envoya un des jeunes garçons chercher des olives. Bientôt, on servit le café et un plat de fèves bouillies frites. Et peu après, arrivèrent les olives, le pain, des œufs à la coque et quelques bouteilles de bière. L'effet fut prodigieux. Chaque individu se mit à parler sa propre langage avec volubilité. Madame Peterkins versa du café à l'espagnol qui s'inclina avec grâce. Tous aimaient la bière. Tous aussi les olives. Le français s'étendit longuement sur les mœurs américaines. Elisabeth et Lisa supposa qu'il faisait allusion à l'absence de nappe sur la table. Le turc souriait, le russe parlait avec animation. Et au milieu du brouhaha produit par ces différentes langues, M. Peterski répétait d'un air navré. « Mais comment leur ferons-nous donc comprendre qu'ils doivent nous donner des leçons ?» Au même instant, la porte s'ouvrit et donna passage à la parente de Philadelphie, qui, arrivée le jour même, venait faire sa première visite. En entendant le bruit tumultueux de ces différentes conversations, elle recula d'effroi. La famille se précipita devant elle avec joie. Tous en même temps lui demandèrent de leur servir d'interprète auprès des professeurs. Pouvait-elle leur venir en aide? Pouvait-elle expliquer aux étrangers qu'on attendait d'eux des leçons? Des leçons! À peine avaient-ils prononcé ce mot que leurs hôtes se dressèrent tous comme un seul homme, la face rayonnante de joie. C'était le seul mot anglais que tous connaissaient. Ils étaient venus à Boston pour donner des leçons. Le voyageur russe espérait ainsi apprendre l'anglais. Et cette idée de leçon semblait leur plaire plus que le déjeuner. Assurément, ils donneraient bien volontiers des leçons. Le Turc sourit à cette perspective. La glace était rompue. Les professeurs savaient maintenant qu'on attendait d'eux des leçons.